bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue sur Les Nouveaux Chemins.
To be or not to be, that is the question.
Nouveau Chemin vous accompagne tous les jours à 10h en direct et toutes les nuits en téléchargement. Chaque semaine, on vous invite à déambuler autour d'un thème à la croisée des disciplines philosophie, littérature, cinéma et toujours en musique. Et à 10h50, aujourd'hui comme tous les jours, vous retrouverez Géraldine Mosna-Savoie pour ses 2 minutes papillon qui vous donne envie de lire de près l'actualité éditoriale philosophique. La philosophie doit beaucoup à Socrate, mais Socrate doit beaucoup à ses prédécesseurs, ceux que l'on nomme les pré-socratiques et qui n'ont pas eu besoin d'attendre le début des dialogues philosophiques pour donner matière à penser. Et quelle pensée ? L'être, le temps, la nature, le monde, l'homme et les dieux. Les pré-socratiques affrontent les problèmes les plus redoutables et lèguent à l'histoire de la philosophie des trésors que nous n'avons pas fini d'explorer. Parménide, Anaxagore, Héraclite et Empédocle. Nous en avons retenu quatre visions du monde aussi poétiques que philosophiques qui vont enchanter votre semaine. Bonjour Lambros Kouloubaritsis.
Bonjour.
Vous êtes professeur émérite à l'Université libre de Bruxelles, membre de l'Académie royale de Belgique. Vous êtes l'auteur d'une histoire de la philosophie ancienne et médiévale, ainsi qu'un ouvrage proposant une lecture originale de la pensée de Parménide, dont il va être question aujourd'hui. Parménide, dont voici le portrait proposé par Diogène Laërce. Écoutez.
Parménide a le premier proclamé que la Terre est ronde et qu'elle occupe le centre du monde. Il admettait deux éléments, le feu et la terre. Le premier considéré comme principe organisateur, l'autre comme matière. Il faisait naître primitivement les hommes du limon de la terre et identifiait avec la terre et le feu le froid et le chaud dont il tirait toute chose. Pour lui, l'âme et l'intelligence sont une seule et même chose, ainsi que l'atteste Théophraste dans la Physique, ouvrage où il a exposé les doctrines de presque tous les philosophes. Parménide distinguait deux espèces de philosophie, l'une fondée sur la vérité, l'autre sur l'opinion. Voici ses paroles. Il faut que tu connaisses toutes choses, et les entrailles incorruptibles de la vérité persuasive, et les opinions des mortels qui ne renferment pas la vraie conviction. C'est en vers qu'il avait exposé ses idées philosophiques, aussi bien qu'Hésiode, Xénophane et Empédocle. Il voyait dans la raison le critérium du vrai et n'admettait pas la certitude des données sensibles. Ainsi, il dit, que la coutume ne te jette pas dans cette route battue où l'on ne porte que des yeux aveugles, des oreilles et une langue retentissante. Mais juge avec la raison cette solide démonstration.
Lorsque Diogène Laërce propose ce portrait de Parménide, il tire le fil de la distinction entre la raison d'un côté et l'opinion de l'autre. C'est une manière de lire ce poème, mais il y en a d'autres. Et cette présentation... Peut-être pas sous silence, un des aspects les plus importants de ce texte, c'est que c'est d'abord un poème magnifique qui soulève des problèmes philosophiques redoutables. Qu'en pensez-vous ?
Oui, d'ailleurs, Diogène le dit. Ils écrivent en poésie Empédocle, et dit-il, Xénophane et Parménide. En principe, à l'époque, lorsqu'un penseur écrivait en poésie, c'est qu'il rentrait dans le contexte culturel, c'est-à-dire qu'il prenait comme référence Homère, Hésiode, c'était les deux références. Mm-hmm. Et Parménide, je dirais, s'approprie cette façon d'écrire, mais en modifiant progressivement, d'une façon très subtile, et fait une mutation et de cette pratique du mythe. En gros, ça signifie quoi? Que avant lui, il y avait deux façons d'aborder le mythe. Soit par des voyages, et ça, Parménide va être très attentif sur ce point, soit par des systèmes généalogiques. Par exemple, Hésiode construit une théogonie. Ça veut dire quoi au fond? C'est qu'il prend le réel tel qu'il est, visible, invisible, il le démembre et le met en catalogue. Il commence par les chaos, et par la terre, le ciel, ainsi de suite. On fait des catalogues. Donc ce système catalogique est très rationnel. Très rationnel, puisqu'il suffit de le redresser pour reconstituer le réel. Et Parménide utilise cela dans la seconde partie de son poème. Mais dans la première partie, c'est plutôt l'Odyssée qu'il a en vue. Quelle est la destination de l'Odyssée? C'est le retour d'Ulysse à Ithaque. Ici, quelle est la destination du jeune homme? C'est qu'il va prendre comme destination une déesse anonyme. Et bien plus que ça, il ne se réfère pas aux muses, comme le fait aussi bien Ulysse, ou bien comme le fait Homère en général, ou le fait Hésiode. Il se réfère à lui-même.
Parce que, rappelons que le poème, disons que le poème s'ouvre avec un jeune homme qui est invité à suivre un chemin par des sortes de divinités qui vont lui conduire d'ailleurs à une autre divinité. Voilà. Donc, et que tout le poème, là vous parlez de différentes parties, c'est vrai, mais il est très court, hein, disons-le, il tient en quelques pages, est présenté comme un chemin à suivre.
Voilà. Je dirais un chemin avec des chemins. Ouais. C'est ça. Donc on est dans une multiplicité de chemins. Et le premier chemin, bien sûr, c'est les cavales qui m'apportent. Donc on est dans le sujet. On ne se réfère pas aux muses. Et on va vers une déesse anonyme. Donc ça veut dire qu'il y a une transmutation profonde déjà du mythe. Donc on prend le voyage avec une destination, la déesse. Mais en chemin, il y a des personnes qui l'aident. C'est les Hélias, donc les filles du soleil. Donc on voit que la référence est le soleil, c'est la lumière. Donc cette notion de lumière, comme le dit Diogène Laërce, Parménide choisit la terre et le feu, donc la lumière et l'obscurité. Donc il est déjà là, le soleil avec les Héliades. Et puis il va arriver devant une porte gardée par Dike. Et c'est une épreuve, c'est comme une initiation.
Dike, la justice.
La justice. Mmh. Mais on est dans un système d'une parodie initiatique, puisqu'il va passer par des épreuves. Et puis, une fois qu'il passe cette épreuve, il va rencontrer la déesse.
Alors, on va écouter le début du poème dans un instant, mais avant cela, remontons encore plus en amont, Parménide dit Délée. On a peu d'informations sur lui, on sait qu'il serait né à la fin du VIe siècle. Mais pour essayer de comprendre le poème que l'on s'apprête à entendre et à commenter, peut-être dites-nous ce que signifie être Éléate et comment Parménide s'inscrit dans ce courant de pensée, si on peut le nommer comme tel.
Et c'est capital parce que Parménide, bon, je dirais que c'est la philosophie de l'Italie du Sud, donc de la Grande Grèce. Donc ce sont des émigrés qui viennent de Grèce et surtout d'Asie mineure à cause de la conquête des Perses. Et sauf, je dirais, Pythagore qui a eu des problèmes dans l'île de Samos. Il a quitté Samos, il a été en Italie du Sud à Crotone. Et à partir de ce moment-là, tous les exilés, tous les penseurs exilés, sauf Héraclite, par exemple, qui est sur place, vont aller en Italie du Sud. Et Parménide est un des premiers qui est né en Italie du Sud. Les autres sont des émigrés. Et il est né à Élée. Élée est une colonie de Phocéens, c'est des Phocéens, c'est la même que celle de Marseille. C'est les mêmes qui ont colonisé l'ouest de la Méditerranée. Et il est né en 515, probablement, donc une vingtaine d'années après la colonisation de ses parents. Donc il est né à cet endroit. Bon, ce qu'il fait, en fait, c'est une sorte de synthèse de toutes les pensées de l'époque. Donc il prend le mythe, il le transforme, il prend les penseurs ioniens, notamment Héraclite et les autres, il les transforme en considérant qu'il faut une erreur, c'est-à-dire de croire que tout le réel est fondé sur une entité, le feu ou l'eau, ou l'air, et il considère que c'est impossible parce que la jeunesse à partir d'une entité est contradictoire. Elle ne peut produire qu'elle-même et pas le multiple. Et donc, ce qu'il va faire, et Diogène l'a bien dit, il va choisir deux éléments et non un. La terre et le feu, et donc on rentre dans une nouvelle construction, une physique du mélange, la séparation. Et c'est capital parce qu'après Parménide, Empédocle ajoute quatre éléments. Et puis Anaxagore, une infinité de particules divisibles à l'infini. Et les atomistes, une infinité de particules indivisibles, donc on rentre dans une physique du mélange. Alors qu'avant, on avait une fusée qui s'épanouissait à partir d'un élément. Et puis, troisième chose extraordinaire, c'est qu'il va aussi s'attaquer aux pythagoriciens. Donc en fait, ils critiquent tout le monde.
C'est-à-dire, alors les pythagoriciens sont réputés pour être extrêmement austères, vêtus de blanc, ayant une hygiène de vie extrêmement, extrêmement sévère. Et au niveau de la pensée, comment est-ce qu'on les définit?
Oui, mais c'est vrai que pour bien comprendre, on peut dire que la philosophie grecque au début est née par les Ioniens qui sont des sages, ils ne sont pas des philosophes.
Comment vous distinguez les deux?
Ah oui, c'est important. Oui. Le sage, c'est celui qui va mettre en question la soumission de l'homme au Dieu. Les dieux sont là, mais on ne se soumet pas. Et comme selon le montre, l'homme est autonome, il crée sa propre cité, il respecte les dieux. Et les sages, c'est ceux qui vont poser une autonomie de la pensée. Et le point final de cette autonomie, c'est Protagoras, où il dit « l'homme est la mesure de toutes choses ». La réponse de Platon sera non, c'est pas l'homme, c'est Dieu. Mm. Or, Platon vient dans une autre tradition. C'est justement ceux qui sont en face, sont les philosophes, c'est les pythagoriciens qui considèrent que seuls les dieux sont sages. Les hommes sont des aspirants à la sagesse. Et pourquoi, je dirais, cette tradition pythagoricienne, justement, qui est en Italie du Sud, est importante? Parce que Platon va la récupérer. Et à partir de Platon, on est dans un dualisme. Et c'est ce dualisme que Parménide va critiquer. Il va dire que les pythagoriciens sont des dualistes, c'est-à-dire qu'ils séparent trop les choses, alors que les Ioniens sont des gens qui ne discernent pas parce qu'ils mélangent tout au niveau de l'un.
Oui, Parménide est avant Platon, donc quand il s'adresse, quand il critique le dualisme, c'est celui des pythagoriciens.
Voilà, ouais. C'est les pythagoriciens, et les pythagoriciens ont séparé la lumière et la terre, l'homme et la femme. Ils ont tout séparé, et Parménide va dire on ne peut pas séparer, il faut l'unité des deux. Donc on voit là une sorte de pensée critique. C'est le premier grand penseur critique, d'où l'importance de la raison, comme le dit Diogène. Pourquoi la raison? Parce que la raison est critique. Et la notion de crisis qui sépare, c'est de là que vient la crisis et la critique. La critique. Donc on voit bien. Donc c'est le premier grand penseur de la critique, on peut dire.
Alors commençons la chevauchée aux côtés de Parménide, donc le philosophe du mélange. Écoutez le tout début du poème sublime interprété par Vincent Schmitt.
Les cavales qui me portent, aussi loin que mon désir peut accéder, m'emmenaient, lorsqu'elles m'engagèrent sur le chemin abondant en paroles réputées de la divinité, qui porte sur toute son étendue l'homme qui sait. En ce chemin je me portais, car c'est en lui que m'emportaient des cavales aux multiples indications, tirant le char puissamment, tandis que les jeunes filles dominaient le chemin. Les cieux dans les écrous des moyeux émettaient un cri de flûte en s'enflammant, car deux roues tourbillonnantes le pressaient de chaque côté. Quand, laissant derrière elles les demeures de la nuit, les jeunes filles du soleil se hâtaient de conduire à la lumière, écartant de leur tête des voiles avec leurs mains. Là sont les portes des voies de nuit et de jour, qu'une poutre et un seuil de pierre encastrent tout autour. Élevées dans l'éther, elles s'emplissent par d'immenses battants. C'est Diké aux multiples rigueurs qui détient les clés qui les ouvrent tour à tour. La séduisant aussitôt par d'apaisantes paroles, les jeunes filles la persuadèrent habilement de vite écarter des portes leurs verrous chevillés. En s'envolant, celles-ci produisirent entre les battants un espace béant dont les pentures pleines d'airain pivotèrent l'une après l'autre dans les écrous équipés de chevilles et d'agrafes. Par là, à travers les portes, tout droit, les jeunes filles guidaient le char et les cavales sur l'accessible chemin, grâce au carrosse. Et moi, une déesse bienveillante m'accueillit.
Ainsi commence le chemin, l'Ambros Koulibaritis, ou devrais-je dire les chemins, puisque si nous suivons le poète, narrateur, philosophe, vers la destination que lui indiquent les divinités et ensuite la déesse qui l'accompagne, il y a plusieurs chemins. Vous l'avez dit, le un est peut-être à l'origine de tout, mais il y a un mélange et toutes ces directions sont bien plus que des métaphores. Selon vous, c'est cela même le sens du poème, c'est d'indiquer que l'important n'est pas tant le point d'arrivée que le chemin lui-même.
Mais c'est ça qui était, je dirais, extraordinaire, c'est que la plupart des interprètes ont cru que le combat que Parménide mène, c'est un combat au niveau du choix entre un ou deux chemins, le chemin de l'être ou le chemin de non-être. Et puis on a dit, non, il y a un troisième chemin. Donc on est venu à trois chemins, qui est le chemin que Parménide essaie de construire positivement. Et puis on a dit, non, il y a un quatrième qui est la physique parménidienne. Bon. Mais quand on regarde le texte, on voit déjà, avant qu'on arrive au savoir, puisque la déesse, la suite de ce qui a été narré, elle va raconter des nouvelles destinations. La première destination, ce sera le cœur inflexible d'Aletheia, bien arrondi, énigmatique.
Elle était y a la vérité.
La vérité. Mais c'est extraordinaire parce qu'il dit le cœur inflexible d'Aletheia, bien arrondi. On peut écrire des tomes.
C'est votre traduction d'ailleurs, j'ai oublié de le signaler. Hein.
Oui, j'ai vu que c'était ma traduction. Et puis il dit, et pas seulement ce chemin-là, mais il y a aussi les opinions des mortels qui se trompent. Et enfin, il dit, il y a aussi le chemin qui convient. Donc, on aura trois destinations là.
Donc, la vérité qu'on peut identifier à la raison,
oui.
Les opinions qui sont peut-être de l'ordre du faux, et enfin, un troisième chemin.
Celui-là qui est sa propre physique. Mais avant cela, justement, là, on a trois destinations nouvelles. On avait la destination de la divinité, mais elle dit elle-même, que ce n'est pas le chemin des hommes. Donc, il y avait une autre destination. Donc, ça avait déjà deux chemins. Plus encore, dit-il, il y a les chemins de nuit et de jour. Donc, on avait déjà quatre chemins avant que la déesse vienne avec les trois chemins. Donc là, on voit immédiatement que la thèse de un ou deux chemins est tout à fait fausse, ou les trois chemins ou les quatre. En réalité, il y a une dizaine de chemins dans le poème. Et c'est important parce que ça montre que la notion de chemin, il ne faut pas la prendre d'une façon tout à fait objective. Et le chemin, c'est un schéma, c'est un modèle empirique que les poètes utilisent, comme l'Odyssée l'a utilisé, ou bien dans les systèmes généalogiques, c'est la parenté qu'on utilise. Quand on regarde un système généalogique, qu'est-ce qu'on voit? Même les dieux sont nés, les hommes sont nés, donc c'est la parenté qui devient importante. Et là, il y a d'autres chemins, d'autres schèmes, qui sont la violence, l'amour qu'on trouve. Et ici, on voit une prédominance du chemin, dès le début. Bon, ce premier point est important parce que, et une fois qu'on réfléchit la façon dont Parménide introduit ce schéma du chemin, et en grec c'est odos, et le terme d'odos deviendra méthodos, la méthode. On voit ici déjà la mise en place, en position, en situation, de toutes les conditions pour introduire la notion de méthode.
Et pourquoi est-ce que c'est Diké, donc la justice, la déesse de la justice, qui lui ouvre ses portes? Qu'est-ce que ça veut dire?
C'est-à-dire que Parménide utilise un certain nombre de figures mythiques. Aletheia, qui est très rare, on trouve très peu de références dans les mythes archaïques, donc il est un des inventeurs, qu'il a inventé. Il utilise Diké, qui elle-même n'a pas de grande, je dirais, narration, et on la trouve auprès de Zeus. Et puis il utilise aussi Moïra.
La destinée, c'est ça?
La destinée. Il utilise aussi Anangé, la nécessité. Donc, il a choisi un certain nombre. Et puis, plus loin, Eros. Donc, il a choisi un certain nombre de figures mythiques. Ça veut dire quoi, au fond? Que ce qui domine dans son discours, c'est le mythe. Et c'est à l'intérieur du mythe, que va émerger la philosophie. Et donc, c'est ça que j'appelle, moi, une transmutation du mythe. Et c'est la notion de savoir qui devient centrale. Vos chemins de la connaissance.
C'est une bonne métaphore.
Ils trouvent leur origine chez Parménide. Voilà.
Mais d'ailleurs, le thème même de chemin, on va écouter la suite du poème, évidemment, avec la thèse principale qui prête tant à discuter. L'être, il y a beaucoup de traductions différentes, mais on peut dire que l'être, ce qui est, ce qui n'est pas. On va voir comment les philosophes ont pu se déchirer autour de cette interprétation. Juste encore un point sur cette notion de chemin. Dans quelle mesure est-ce que cette trajectoire que dessine le poème induit ou exprime le contenu même de la pensée de Parménide? C'est-à-dire, c'est quand même une notion spatiale, il y a un chemin à parcourir, mais aussi temporel. Il y a ici une prise en compte de l'espace-temps au sein même de l'idée de chemin qui est très importante.
Oui, parce que tout chemin a un temps et tout chemin a un espace, justement. Donc, au départ, c'est ça, c'est l'espace. Et la temporalité, pratiquement, est minimale, parce que le chemin qui m'apporte, c'est le présent. Il n'utilise pas le passé simple. Il utilise soit l'imparfait, qui est continu, soit le présent. Mais cette notion de chemin, est, comme tout chemin, il y a ou il n'y a pas de destination. C'est ça la question. Et Parménide, je dirais, c'est le premier penseur dialecticien. C'est-à-dire, il va poser une notion, le chemin, il va penser toutes les possibilités de penser le chemin. Et une des possibilités sera qu'il y a aussi des chemins qui ne sont pas des chemins. Et c'est cela, celui-là du non-être. Il y a des chemins, celles des mortels, qui n'arrivent pas à destination. Lui va arriver à destination, bien sûr. Mais quelles sont les destinations, justement, qu'il va mettre en évidence? La première destination, c'est celle, le cœur inflexible dans l'état bien arrondi. C'est quoi ça? C'est justement ce qu'on appelle l'être. En grec, c'est éon. Mais éon, contrairement à ce que croient la plupart des interprètes, ne signifie pas être. C'est un participe présent, c'est pour ça que certains ont traduit « étant », Heidegger compris. Récemment, Bollack a traduit « étant ». Mais c'est faux aussi, parce que c'est confondre avec l'idée philologique qu'il y a eu une transformation de la langue, qu'on est passé du grec archaïque de « éon » et « onda » à « on », « onda », le petit epsilon a sauté, et c'est la même chose. Eh bien non, j'avais déjà, moi, dans mes premières éditions, été très prudent, mais à partir de la troisième édition, j'ai opté et définitivement pour la notion éon au sens ce qui est dans le présent.
C'est-à-dire que normalement, enfin d'habitude, éon est traduit par être et vous vous dites non, la traduction d'éon ce n'est pas être, c'est ce qui est dans le présent.
Ou bien
donc
être...
c'est une manière, non pas d'ailleurs de temporaliser l'être, mais au contraire de le figer.
Ouais, c'est ça. Et l'être fige, les temps figent. Ce qui est dans le présent met le temps en évidence, ce qui est dans le présent. Or, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que entre-temps, on a découvert les papyrus de Derveni.
Qu'est-ce que c'est?
Les papyrus de Derveni, c'est des papyrus qu'on a trouvés dans des tombes et qui étaient placés pour les morts. Et donc, dans ces papyrus, nous avons aussi, c'est des papyrus orphiques. Et on fait à la fois une pratique des rites, donc ils sont religieux, et une pratique de la philosophie. Et dans ce texte, ce qui est extraordinaire dans ce texte, et là c'est une révolution, l'auteur fait la différence entre éonda et onda. Les onda, ce sont les choses qui sont dans le présent, éphémères, alors que les onda, ce sont les choses stables. Ça veut dire quoi? Par exemple, la répétition du jour et de la nuit, la répétition des saisons, toutes ces choses-là sont stables. Au contraire, et tout élément de ce qui se passe actuellement est dans le présent, il est éphémère. Or, Parménide, et n'utilise pas onda, sauf peut-être dans un vers, je le laisse parce que c'est très technique, mais c'est éonda et éon. Et même avec des dérivés, apéonda et parionda.
On va essayer de ne pas effrayer tout de suite toutes les personnes qui ne parlent pas grec, dont je fais partie d'ailleurs. Donc on va déplier, prendre le temps de déplier tout ce que vous venez de dire, parce que c'est en effet une interprétation non seulement originale du texte, mais qui permet de bien mesurer les enjeux qui sont posés dans ce poème. Alors, avant d'entendre l'extrait du poème lui-même qui affirme cette distinction entre l'être et le non-être, je vous propose de découvrir ce que Jean Rostand affirme de Parménide. C'était le 29 novembre 1952 sur la RTF.
Le célèbre Parménide d'Élée, que Platon appelle le respectable, le redoutable, le profond, passe pour avoir été disciple de Xénophane. Il naquit vers l'an 519. Il composa un poème sur la nature dont quelques fragments nous sont parvenus. Mais sa philosophie même, qui refusait toutefois au témoignage des sens, devait l'écarter du domaine proprement scientifique. Cependant, on lui attribue quelques opinions sur la formation de l'univers à laquelle auraient collaboré deux éléments primordiaux, le lumineux et le sombre, ou si l'on veut, la lumière et la nuit. La diversité des individus humains était due, selon Parménide, aux proportions différentes de ces deux éléments dans le corps. Le sexe de l'enfant dépendait de la position du fœtus dans le sein maternel. À droite, où il fait moins chaud, se forment les garçons. À gauche, les filles. Cette idée d'une relation entre le sexe et la température se retrouvera souvent chez les anciens auteurs. Parménide pensait que la mort ne détruisait pas toute sensibilité. Il attribuait au cadavre une sorte de perception partielle, limitée à l'obscurité, au froid et au silence.
On the road again, just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends, and I can't wait to get on the road again. On the road again, going places that I've never been, seeing things that I may never see again. I can't wait to get on the road again. Road again, like a band of gypsies, we go down the highway. We're the best of friends, insisting that the world keep turning our way. And just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends, and I can't wait to get on the road again.
On the road again, sur la route, et oui, c'est la route de Parménide que nous suivons aujourd'hui sur la nouvelle route, les nouveaux chemins de la connaissance. Vous écoutez Willie Nelson, On the Road Again, et c'est le chemin des présocratiques que nous suivons cette semaine avec aujourd'hui Parménide, en compagnie de Lambrose Koulibaritsis, à qui l'on doit un ouvrage consacré à la pensée de Parménide, publié aux éditions Ousia, mais également une histoire de la philosophie ancienne et médiévale chez Grasset, et enfin plus récemment, la philosophie face à la question de la complexité, en deux tomes, aux éditions Ousia toujours. Alors avant d'entendre les fragments 6, 7 et 8 de Parménide, les plus célèbres, l'être est, tandis que le non-être n'est pas, je maintiens le suspense jusqu'au bout, Lambrose Koulibaritsis, vous vouliez réagir sur ce que les propos de Jean Rostand, qui finalement propose un Parménide en biologiste et physiologiste.
Oui, mais c'est extraordinaire, parce que c'est vrai que le but véritable du poème, c'est le réel, c'est le monde, c'est la vie. Et donc ce que dit Rostand, c'est tout à fait vrai. Ce qui lui manque à Rostand, et c'est normal parce que lui il regarde les détails de ce qui l'intéresse, c'est qu'est-ce qui légitime finalement cette réalité? Qu'est-ce qui nous permet de la connaître? Qu'est-ce qui nous permet? Et c'est ça qui est l'intermédiaire. Avant d'arriver à cette réalité que Parménide exprime dans la seconde partie de son poème, non pas pour faire une science, parce qu'il faut attendre Aristote pour faire une science, mais pour rendre quelque chose d'intelligible par une doxa, qui est positif, par une opinion positive, par, comme je dis, une considération. Et il y a quelque chose de plus, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure philologiquement, très compliqué, et les choses qui sont dans le présent. Et c'est cet élément-là qui va justifier quoi? Il va légitimer les conditions pour connaître, c'est-à-dire la pensée. C'est ça la clé. Première destination, ce n'est pas l'être, comme on dit, c'est la pensée. Et la pensée, c'est quoi la pensée finalement quand on réfléchit? Et pour Parménide, la pensée, c'est ce qui est continu. Je pense tout le temps comme je respire. Quand je parle, c'est discontinu. La parole est discontinue. Au contraire, la pensée est continue. Mais qu'est-ce qui fonde cette continuité? C'est ça la question. Et c'est justement ce qu'on appelle l'être. C'est ce qui est dans le présent, qui est même à lui-même et dans le même. C'est-à-dire, c'est le principe d'identité.
Donc l'être serait synonyme de pensée?
Non. L'être, c'est fonde, la condition
de la pensée. De la pensée.
Et plus que ça, Parménide dit qu'il est inviolable. Et il dit qu'il ressemble à une masse d'une sphère bien arrondie, et il est inviolable. Ça veut dire quoi? C'est que la pensée ne peut pas penser sa propre condition. Sinon, il a fait un objet. Et s'il a fait un objet, il faut une autre condition. C'est une régression à l'infini. Donc ce qu'a fait Parménide pour la première fois, c'est de faire une condition qui est inviolable, c'est-à-dire insaisissable, c'est l'être. C'est pour ça qu'il dit le cœur inflexible, d'Aletheia bien arrondi. Le cœur, on ne le voit pas. Inflexible, d'Aletheia, de la vérité bien arrondie. Donc, une fois qu'il établit l'être comme condition de la pensée, il peut faire une chose extraordinaire, utiliser cette pensée et l'appliquer sur le réel. Et donc là, nous avons, première destination, la pensée. Deuxième destination, l'application de la pensée pour penser le réel.
Mais qu'est-ce que vous entendez par réel? Parce que lui-même, évidemment, n'emploie pas ce terme. C'est la réalité biologique. C'est dans ce qu'il dit, à droite les garçons, à gauche les filles.
Ça, c'est un élément
dans
de la réalité.
Dans le fragment 17.
Un élément de la réalité, c'est le cosmos. La réalité
qui est ordonnée.
Et qui est là, il fait l'analyse du cosmos dans laquelle, justement, Rostand a repéré ce qui l'intéresse, la biologie.
Bon, et il faut dire que c'est assez cocasse de lire ça aujourd'hui.
Non, mais c'est très beau, parce qu'effectivement, Parménide est aussi un pré-biologiste, un pré-astronome. Bon, il nous donne une conception du réel qui n'est pas une science, mais qui est quelque chose d'intelligible. Bon, donc la question est la suivante, une fois qu'on fonde la pensée, grâce à l'être, et on reviendra une fois que vous donnez le texte.
Oui.
Et la question est comment peut-on appliquer la pensée? Et là, Parménide, dans le fragment 4, dit cette chose extraordinaire, et je cite un peu par cœur, il dit, prends par ta pensée les choses qui sont absentes. Et le terme grec, c'est apeonda. Donc c'est le terme, les choses qui sont absentes, ça veut dire, c'est le réel est absent. Pourquoi? Parce qu'il est en devenir permanent. Il est absent. J'ai aucune prise sur le réel parce qu'il est en devenir. Donc, prends ces choses qui sont absentes, par la pensée comme fermement présente. C'est-à-dire, essayer de les stabiliser. Non pas en faisant des êtres. Pareonda, ça veut dire des choses présentes qui se rapprochent de l'être. Et donc là, nous avons quelque chose d'extraordinaire. Nous avons la fondation de la pensée grâce à l'être et l'application de la pensée sur le réel qui rend intelligible.
Mais quand il le rend intelligible, il le dénature quelque part. Si la pensée doit figer le devenir, c'est déjà une image de la réalité dont elle s'empare.
Oui, tout à fait. C'est pour ça que c'est une doxa.
C'est-à-dire une opinion.
C'est une opinion. Moi, j'ai traduit donc ça par considération. C'est-à-dire, c'est une opinion forte. On considère quelque chose, c'est plus qu'une opinion. Les opinions, c'est les mauvaises. C'est-à-dire, c'est Héraclite, c'est Pythagore.
Pour Parménide, Héraclite est du côté de l'opinion.
Oui, tout à fait, des mortels. Ouais. Tout à fait du mauvais côté. Et parce que, justement, il pense les choses qui ne sont pas. Il ne parvient pas à stabiliser le réel. Ce qui n'est pas vrai, parce que chez Héraclite, il y a aussi le logos. Mais bon, Parménide.
On en parlera mercredi d'Héraclite.
Oui, voilà, il réduit. La même chose se fait avec les pythagoriciens, il réduit aussi. Donc ça, c'est la typologie des philosophes. Les philosophes font des typologies, Parménide fait des typologies. Et donc, je dirais, pour terminer là-dessus, rentre les choses dans le présent, c'est pas en faire des intelligibles, ça c'est Platon qui fera ça. Mm-hmm. Donc Lucia, les essences seront intelligibles. Aristote ira plus loin, il fera une science du devenir, c'est-à-dire il ontologise le devenir. Parménide est avant cela, il ontologise rien, il ne crée pas une science des idées, tout simplement, il crée par la pensée la possibilité de penser le réel en stabilisant les choses pour pouvoir créer une conception du réel. Donc une stabilisation qui n'est pas à fixation. Pourquoi? Parce que ce qui est fondamental pour lui, c'est la temporalité, les choses qui sont
donc
dans
il faut essayer d'articuler pensée et réalité tout en préservant la temporalité. Voilà. C'est-à-dire figer sans ontologiser, sans essentialiser,
voilà,
en fait.
C'est ça. De ne pas faire du réel est quelque chose d'objectif, absolument objectif. C'est-à-dire qu'on n'a pas de prise réelle sur le réel.
Parce qu'il c'est ça. Il y a quand même un deuil, un renoncement à saisir absolument le réel tel qu'il est.
Qu'est-ce qu'il fait?
Il n'y a pas de réalité en soi, en termes platoniciens.
Non, mais c'est-à-dire qu'on organise la réalité en fonction de quoi? Et c'est ça, sa physique. On prend la lumière et l'obscurité comme référence. La terre et le feu comme référence. Le chaud et le froid comme référence. Étant donné que les choses sont nommées lumière et obscurité, tout est plein de lumière et d'obscurité. Donc on voit bien, c'est-à-dire que parce qu'on nomme les choses de lumière, les choses sont en lumière et en obscurité.
Et voilà, et on voit ici l'intérêt de la métaphore poétique pour exprimer ce que peut-être la pensée ne peut pas exprimer. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts? On va entendre
tout à fait
les fragments 6, 7 et 8, où on entend la thèse fondamentale de Parménide. C'est votre traduction, l'Ambrose Koulibaritis, interprété par Vincent Schmitt.
Il faut dire ceci et penser ceci. Ce qui est dans le présent est, car il est être, alors que le néant n'est pas. Ces choses, je t'exhorte à les méditer. D'abord, en effet, je te mets en garde contre ce chemin de recherche. Ensuite, contre cet autre, en lequel s'égarent les mortels qui ne savent rien, double tête. Car l'embarras qui est dans leur poitrine dirige une pensée errante. Ils se laissent porter à la fois sourds et aveugles, effarés, race sans discernement, qui ont tenu le venir à l'être et le ne pas être comme étant le même et pas le même. Leur voix à tous est une voix qui va et revient sur ses pas. Jamais en effet on ne forcera ceci, faire être les choses qui ne sont pas dans le présent. C'est pourquoi, toi, écarte ta pensée accomplie de ce chemin de recherche et ne laisse pas l'habitude née de multiples épreuves t'entraîner de force sur ce chemin pour diriger un regard sans but ainsi qu'une ouïe bruyante et une langue, mais juge au moyen d'une argumentation la critique multiplement polémique que j'ai proférée moi-même. Il ne reste encore qu'une seule façon autorisée de parler concernant le chemin, celle qui dit qu'il est et comment il est. Sur lui, il y a des signes plutôt nombreux indiquant qu'étant dans le présent, inengendré, il est aussi impérissable, tout d'une seule souche, inflexible et achevé. Thank you.
Affirmer que l'être est et que le non-être n'est pas, c'est à la fois absolument intuitif et logique, parce que tautologique, hein, on ne fait que répéter ce qui est, l'évidence, et en même temps redoutable pour la pensée, parce qu'il est très difficile de savoir quel statut nous accordons au non-être. Dire que le non-être n'est pas, c'est déjà dire quelque chose sur le non-être, donc présupposer qu'il existe déjà, et qu'il fait partie du côté, et qu'il est du côté de l'être. Ce sont les objections et les remarques Platon, puis beaucoup plus tard Nietzsche et Heidegger lui feront, l'Ambrose Clubaritis. Alors, où vous situez-vous dans ces interprétations?
Oui, c'est-à-dire que si on prend leur point de vue, c'est Platon le premier, et il montre la contradiction. Nier le non-être,
c'est le prendre en compte.
Oui, mais quand on regarde le texte de Parménide, il ne s'agit pas de ça. Il dit, et c'est un chemin inaccessible. Donc, il ne parle pas du non-être pour l'affirmer, il parle d'un chemin inaccessible.
Mais donc il reconnaît son existence, puisqu'un chemin existe. Non, il est hors d'accès, mais il est là.
Inaccessible.
Oui, mais il est là.
Non, mais inaccessible, parce que ici, le chemin, c'est en fait un schème dans le mythe qui permet d'arriver à la réalité. Il ne faut pas objectiver le mythe. Le mythe a son statut propre. Et donc, on utilise le mythe pour arriver à dire même des choses qu'on ne peut pas dire, justement. Le mythe a cette capacité de parler même de l'invisible. Le monde archaïque, c'est ça. C'est un monde invisible qu'on ne voit pas. Et le mythe dit les dieux, dit les morts, c'est-à-dire de façon visible, il parle de l'invisible. Donc l'usage du mythe est capital. Dès qu'on détruit le mythe, et on arrive à des conclusions comme celle de Nietzsche, de Heidegger, ou bien surtout de Platon, qui le critique. Mais ce n'est pas ça l'argument. L'argument de Parménide, c'est le suivant. Si on veut véritablement fonder la pensée, qui est continue, qui est basée sur le principe d'identité, elle est même, dit-il, persistant, le même est dans le même, il est toujours égal à lui-même. Ça veut dire quoi, ça? Pour arriver à cette identité, il faut, dit-il, il faut que le non-être ne soit pas pour que l'être soit pleinement. C'est-à-dire, en niant, en rejetant le non-être, on donne à l'être, à ce qui est dans le présent, un caractère absolu. Et à ce moment-là, on peut penser les choses. Et on sort du piège d'Héraclite, qui justement, il critique juste avant, il dit que c'est des gens qui ne savent pas penser, ils sont aveugles. Pourquoi? Parce qu'ils mélangent l'être, le non-être dans le devenir. Et donc, c'est, comme il dit, des akritaphila, des gens qui sont sans discernement. Or, ce qu'il fait, lui, c'est une crise. C'est la première crise, décision philosophique majeure. Il faut que l'honnête ne soit pas pour que l'être soit et que la pensée puisse fonctionner. Donc c'est la fondation du principe d'identité. Et aujourd'hui c'est capital parce que toute notre technologie se base sur le principe d'identité. Je ne peux pas faire les mêmes assiettes si ce principe d'identité ne fonctionnait pas. Une machine produit les mêmes choses en prenant le principe d'identité comme critère.
Mais est-ce que ça veut dire que le non-être est du côté du devenir? Parce que vous avez dit que la pensée, pour fonctionner, doit figer. Et donc, elle doit faire comme si il y avait on pouvait isoler une sorte de fragment temporel pour pouvoir le penser et donc ne pas avoir à épouser le flux même du devenir. Or, il en va de même avec le non-être, dites-vous, puisque pour pouvoir penser, il faut affirmer l'être et donc il faut écarter le non-être. Est-ce que ça veut dire que le non-être est du côté du devenir?
C'est une bonne question. C'est-à-dire, dans la première partie, il ne s'agit pas de devenir. Il s'agit justement de penser logiquement pour fonder la pensée et on exclut l'honnête. Dans la seconde partie, effectivement, quand on parle des choses absentes, là, on est dans les choses en devenir. Absentes, ça veut dire qu'elles sont loin de l'être. Elles sont appéantes en grec, ça veut dire « je m'éloigne d'eux ». Et donc, la pensée doit les rendre présentes, doit les rapprocher de l'être. Donc, ça veut dire ceci, que le devenir, effectivement, est du côté du non-être. Les choses qui sont en devenir, ce sont des choses, au pluriel cette fois-ci, hein, au pluriel, c'est des choses qui sont absentes. Alors que dans la première partie, on est au singulier. Éon, c'est le singulier, ce qui est présent. Donc, je traduis, moi, éon, ce qui est dans le présent, et les éondas, les choses qui sont dans le présent, les éondas. Et donc, les apéondas, c'est les choses absentes. Donc, les choses en devenir, effectivement, il faut les exclure aussi. Sinon, il n'y a pas de pensée. C'est ça qu'il dit. Ne tombe pas dans le piège de penser le devenir. C'est impossible. Mais une fois qu'on a fondé la pensée, on peut appliquer la pensée et rendre présentes les choses absentes. Effectivement, on écarte le devenir. Donc, on écarte deux fois. Une fois le devenir, une fois le non-être.
Et finalement, c'est assez intuitif, là encore, quand on dépasse les difficultés d'interprétation, que de dire que l'être ou le réel est uniquement présent, n'est pas dans le devenir, puisque nous ne pouvons faire l'expérience que ce qui est absolument présent. Et que c'est finalement, quand on propose une lecture, disons, ontologique de l'être en disant c'est un principe métaphysique, c'est une manière de ne pas voir qu'en fait, l'être, c'est juste ce qui est toujours devant, absolument présent. C'est le présent et qu'il n'y a pas d'autre. Il y a le passé, le futur, le devenir n'ont pas de réalité à proprement parler.
Oui, c'est d'ailleurs que je dirais, pour être plus prudent, chez Parménide, nous sommes dans la période qui va fonder tout cela. Et donc tout cela se fonde à travers un mythe. Et par conséquent, il n'y a pas d'objectivité véritable à ce moment-là. Et donc quand on prend le présent, c'est capital, puisque tout le poème est fondé sur le présent. Et peut-être c'est ça un peu la conclusion qu'on peut donner à Parménide. Le poème commence, les cabales qui m'apportent, c'est le présent. On fonde la pensée sur l'être, ce qui est dans le présent. Et l'application de la pensée, c'est apporter les choses dans le présent. Donc c'est une pensée de la continuité du présent. Le mythe transmute le mythe ancien qui avait une mémoire. Les muses avaient une mémoire. Et sinon, on est sans mémoire. C'est le présent dans le mythe. L'être, c'est dans le présent. Donc la pensée peut penser parce que l'être est dans le présent. Et la pensée peut appliquer les choses qui sont absentes, c'est-à-dire les choses du devenir, en les faisant présentes. Donc effectivement, on peut dire que Parménide est le premier grand penseur, je ne dirais pas de l'être, mais de ce qui est possible dans l'intelligibilité des choses grâce au présent. Et à partir de Platon, c'est vrai que le présent devient central. Aristote aussi, Lucia est présente. Donc c'est vrai que quand vous dites que et le présent est important, je dirais oui, à condition de ne pas réduire les choses à l'être.
Parménide énonce dans son poème la difficulté principale et originelle qui affecte indifféremment toute chose, mais à laquelle répugne aussi toute chose dès lors qu'elle est chose pensante, comme le dit Descartes de l'homme. Et Aristote ne croit sans doute pas si bien dire lorsqu'il déclare, à propos des sentences de Parménide sur l'être et le non-être, que les esprits simples qui s'y laissent prendre s'empêtrent dans une difficulté archaïque. Cette difficulté archaïque est en effet le principe dont proviennent toutes les difficultés, tant intellectuelles qu'affectives. Aussi bien capital de la pensée que capital de la douleur, pour reprendre une expression d'Éluard. La pensée selon laquelle ce qui est, est, et ce qui n'est pas, n'est pas, est comme un centre d'attraction dont nulle pensée ne peut réussir à s'échapper. Le carrefour aimanté auquel revient nécessairement, bon gré mal gré, toute pensée d'où qu'elle vienne et où qu'elle tende. Et c'est en ce sens que doit être entendu, me semble-t-il, l'énigmatique fragment 5 du poème de Parménide qui laisse la plupart des commentateurs perplexes. Peu m'importe par où je commence, car je reviendrai ici. C'est au début de ces principes de sagesse et de folie que Clément Rossi écrit ces lignes, l'Ambrose Clubaritis. Je ne sais pas si vous connaissez ce texte superbe, car à la fois très simple et très précis, très pertinent, me semble-t-il, quant à son interprétation de Parménide. Ce qu'il affirme est assez proche de ce que vous affirmez, si je vous ai bien lu. Et, il décrit très bien comment, au fond, ce que Parménide nous dit de la réalité, à savoir que nous ne pouvons la connaître qu'en tant qu'être, eh bien, c'est un piège. Qu'en fait, c'est comme un piège du réel lui-même et que c'est là le sort tragique de l'être humain, à la différence des dieux.
Oui, oui, c'est très intéressant. Je ne connais pas le texte, mais effectivement, la seule chose que je dirais, cette idée rentre un peu dans notre logique de nos contradictions et d'identité, alors que le mythe excède ces logiques. Et le fondement du mythe, je crois que le symbole Tao le montre, et c'est l'ambivalence. Et Parménide est le penseur à la fois de l'ambivalence par le mythe, de l'identité et de la contrariété avec les deux éléments. C'est-à-dire il excède d'une certaine façon et notre façon de réduire tout à l'être ou à la pensée. Donc il excède. Et donc la question aujourd'hui, c'est un peu ça aussi. Est-ce que le réel n'est pas complexe? Est-ce que actuellement, nous ne sommes pas excédés par cette réalité complexe aussi.
C'est ce sur quoi vous écrivez aujourd'hui.
Voilà. Et quelle est l'intelligibilité qu'il faut pour comprendre la complexité? Donc, la pensée archaïque est très complexe. Parménide essaie de la réduire, mais aujourd'hui, on redécouvre par la science une nouvelle complexité. La question est de savoir, est-ce que notre logique de la contradiction et de l'identité sont capables d'expliquer l'intelligibilité des choses.
Donc oui, finalement, être ou ne pas être, c'est Shakespeare qui avait raison. C'est bien là la tragédie humaine, c'est de ne pas savoir répondre à cette question.
Oui, mais il faut la dépasser.
Comment on la dépasse?
Mais on la dépasse d'abord par une pensée de l'un du multiple. Et au-delà de l'un du multiple, et je crois là, aux nouveaux critères de la complexité qui sont, et ces critères ne sont plus des critères linéaires, c'est l'interaction. Par exemple, nous sommes en interaction maintenant. Mmh. Chacun de nous vient d'apprendre des choses. Et donc, on construit. Avec les interactions, on construit tout le temps. Et ça excède le stable, ça excède l'identité, tous ces phénomènes d'interaction. Et c'est ça la complexité aujourd'hui. Et le fondement, je dirais, de la complexité, c'est l'interaction, ce n'est pas la relation. Et donc, ça dépasse nos logiques traditionnelles. Donc, il y a du travail à faire encore. Et je crois que la pensée archaïque a le mérite de nous apporter dans une logique qui est celle de l'ambivalence, qui précède la logique de l'identité. Aujourd'hui, nous avons une logique qui va au-delà de l'identité parce que nous venons après coup. Après avoir fait tout le trajet, nous retrouvons quelque part la pensée archaïque.
Je reviendrai ici, c'est ce que dit Parménide dans le texte cité par Clément.
C'est ça, voilà, c'est exactement.
Alors je vous propose de dépasser, et pour essayer de dépasser la logique pour essayer d'affronter la complexité du réel. Il y en a un qui le fait à sa façon, être ou ne pas être, chante-t-il en anglais, alors ça va faire grincer des dents et puis en chanter d'autres, écoutez.
Not to be, to be or 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 not to be. Encore choisir, choisir encore. Entre bleu ciel et verte terre, pourrir du cœur, mourir du corps. Quelle question tragique à poser. To be or not to be.
Et oui, cette question tragique formulée par Parménide, Platon, Nietzsche, Heidegger, et puis vous-même à votre façon, Lambrose Koulibaryty, c'est Johnny Hallyday qui la chante à sa façon. Un grand merci d'être venu nous parler de Parménide aujourd'hui.
C'est moi qui vous remercie.
C'était un plaisir qui aurait pu continuer encore bien longtemps. Je renvoie les auditeurs, pour continuer ce plaisir, à votre ouvrage La pensée de Parménide, qu'on trouve aux éditions Ousia. Et puis, puisque vous en avez dit deux mots en fin d'émission, on voit désormais le lien qui articule les deux ouvrages. Plus récemment, La philosophie face à la question de la complexité, en deux volumes, toujours aux éditions Ousia.
Dormir seul au fond de son trou. Quelle question mortelle à poser.
Il n'y a plus de Johnny Hallyday, mais Géraldine Mosna-Savoie qui va reprendre la parole. Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à tous.
Sur France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance à 10h49, il est l'heure de vous retrouver pour vos deux minutes papillon. Vous nous parlez comme tous les jours d'un livre qui a retenu votre attention.
Et aujourd'hui, c'est l'essai de Byung-Chul Han qui s'appelle « Sauvons le beau, l'esthétique à l'ère numérique » qui vient de paraître aux éditions Actes Sud.
Je suis tout à fait en phase avec la réalité. Quand je marche dans n'importe quelle rue, j'observe ce que tout le monde observe et j'essaie d'y prendre un maximum de plaisir. Pour moi, l'art est du domaine du rationnel. C'est juste penser, absorber les choses, sans planifier mes créations, et surtout sans approche analytique.
Surtout sans approche analytique. Quand l'artiste contemporain Jeff Koons évoque sa manière de créer, on retrouve exactement la thèse que le philosophe Byung-Chul Han soutient à son propos dans l'esthétique à l'ère numérique. Et voici ce qu'il en dit, je cite. Face à son art, donc celui de Jeff Koons, nulle interprétation, nul jugement, nulle herméneutique, nulle réflexion, nulle pensée n'est nécessaire. Il vous désarme aussi bien qu'il vous décharge. Il est dépourvu de tout abîme, de tout sens profond. En fait, Jeff Koons, c'est selon Byung-Chul Han la figure par excellence du lys, de cette catégorie désignée ici comme le trait saillant de notre époque marqué par le numérique, et plus précisément de l'esthétique que le numérique produit. Le lys donc, ou la manière de tout niveler, de tout démystifier, le lys ou l'absence aussi de négativité, de douleur, de plaisir, d'inquiétant, d'objection. C'est Jeff Koons, mais aussi, et vous en avez peut-être fait l'expérience, le smartphone que l'on touche comme une peau accessible et sans voile. Byung-Chul Han multiplie d'ailleurs ce genre d'exemple, et ça n'est démarche ressemble beaucoup à celle de Barthes, qui développait la mythologie de la déesse Citroën et son ergonomie lisse, mais aussi à celle de Tocqueville, qui décrit nos siècles démocratiques, comme ceux du conformisme, où la bonne entente s'est substituée aux grandes passions. Alors qu'ajoute Byung-Chul Han à tout ce qu'on a déjà lu sur notre époque lisse, conformiste, et tout ça à cause du numérique? Eh bien, rien et tout, c'est-à-dire que le numérique chez lui reste le grand mal de notre siècle. Mais il est tellement passionnant et fascinant de lire ses petites lectures sur le like, sur le gros plan, ou encore l'épilation brésilienne, qu'on lui pardonne bien sa thèse un peu lisse. Mais oui, l'épilation brésilienne, la peau.
Vous savez parler aux auditeurs, Géraldine. Enfin, aux auditrices en l'occurrence.
Oui, ou aux éditeurs
donc,
peut-être.
Rappelez-nous le titre du livre.
Sauvons le beau, l'esthétique à l'ère numérique de Byung-Chul Han, et c'est traduit de l'allemand par Mathieu Dumont.
C'est noté. Merci Géraldine et merci à tous. L'émission touche à sa fin. On se retrouve demain pour la suite de cette semaine consacrée aux présocratiques. Après Parménide aujourd'hui, demain ce sera Anaxagore en compagnie d'Arnaud Massé. Un grand merci à l'équipe des Nouveaux Chemins, Ariane Mintz qui a préparé cette émission, Pierre Brossard, Antoine Ravon, Géraldine Mossin-Savoie bien sûr, Marianne Chassor, Nicolas Berger à la réalisation cette semaine, Emmanuel Morse-Duncan à la prise de son. Rendez-vous sur nos pages Facebook et Twitter où nous attendons vos remarques et commentaires. Et puis en ligne sur le site du Nouveau Chemin, vous pourrez réécouter cette émission ainsi que toutes les autres, d'ailleurs toutes les émissions passées. Si vous avez raté les directs, le téléchargement est un bon moyen d'écouter et de découvrir chaque émission.